VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Un chef d'une milice accusé d'avoir sémé la terreur ces dernières semaines au Kasaï, dans le centre de la République démocratique du Congo, s'est rendu lundi aux autorités provinciales. Le chef Kalamba Dirondo est venu de lui-même à Kakenge. Il a été reçu par le gouverneur de province qu'il a remis au commandant du secteur opérationnel de l'armée congolaise dans la région, a déclaré à l'AFP Jacopo Pembe Longo, l'administrateur du territoire de Mweka au Kasaï. Il est acheminé à Kananga, chef-lieu de Kasaï central, avec un rival, Nkumu Chakobe, pour des enquêtes. Kalamba Dilondo est accusé par les autorités d'être à la tête d'une milice qui sème la terreur depuis fin novembre 2017 à Kakenge. Avancé dans le processus de désarmement des ex-rebelles en Centrafrique, un premier groupe d'une centaine d'anciens combattants ayant participé au projet pilote du programme de désarmement a été intégré hier à l'armée nationale après 4 mois de formation. Abdourahmane Dia.
Il s'agit du premier groupe issu du projet pilote du programme de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement. Ce processus a souvent fait l'objet de critiques par son immobilisme et son inefficacité. Le président Faustin Archange Touadéra, présent à la cérémonie d'intégration de ces nouveaux membres des forces armées, a exprimé son grand plaisir de voir ces résultats, reconnaissant toutefois que l'immense chantier du DDRR n'a pas eu de réel succès par le passé. Le pays a connu depuis les années 2000 3 programmes de désarmement qui n'ont jamais abouti faute de moyens. Le président Touadéra a précisé que 139 volontaires sont prêts à démarrer un nouveau cycle de formation de 4 mois. 240 autres ont été réorientés vers des programmes de formation économique avec le soutien de la Banque mondiale.
Le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, a reconduit dans ses fonctions son premier ministre Francisco Pascual Eyege Obama Asue après la dissolution du gouvernement sortant en fin de semaine. Le chef de l'État a également reconduit à leur poste les 3 vice-premiers ministres Clémenté Ngonga Nguema Ongeme, en charge du secteur politique et démocratie. Par ailleurs, ministre de l'Intérieur, Angèle Massier-Mebouy, en charge des affaires juridiques à la présidence et des relations avec le Parlement, et Alphonso Nsue Mokui, en charge des droits de l'homme. La composition du reste du gouvernement doit être annoncée dans la semaine. La semaine s'annonce cruciale pour le président sud-africain Jacob Zuma. La direction de son parti, l'ANC, a convoqué pour mercredi le comité national exécutif, l'organe supérieur habilité à révoquer M. Zuma. Ces assises se tiendront un jour avant l'adresse à la nation devant le Parlement. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion extraordinaire du comité de travail de l'ANC qui va évaluer le rapport de la structure mandatée pour négocier le départ de M. Zuma de la présidence et la mise en place de la transition. Pour analyse, Eric Manirakiza a joué en Afrique du Sud, le politologue Achille Mbembe.
Il est fort possible que ce mercredi dans la nuit, l'ANC décide effectivement de mettre fin à la présence de M. Zuma à la présidence de la République sud-africaine.
Mais le comité de travail n'a pas le pouvoir de le destituer.
C'est la raison pour laquelle justement le conseil exécutif national est convoqué pour mercredi dans la soirée. De cette réunion du Conseil national exécutif, on risque de sortir justement la décision de congédier M. Zuma.
Est-ce que Ramaphosa dispose d'une majorité suffisante pour justement le faire partir?
Il dispose, Ramaphosa, d'une majorité relative, telle qu'elle est sortie justement des dernières élections lors du congrès de l'ANC. L'hypothèse est que entre décembre et début février, un travail de fond a été effectué pour faire croître cette majorité. Et donc, le pronostic est que la majorité des membres de ce conseil suivra les instructions de M. Ramaphosa et déposera M. Zuma. Faute de quoi, disons, le Parlement prendra le relais et votera une motion de non-confiance qui fera chuter le gouvernement.
Comment vous expliquez la résistance de M. Zuma? Il a refusé de démissionner lors de la réunion de dimanche soir.
M. Zuma a peur d'aller en prison. M. Zuma, dans les conditions actuelles, risque de sortir du palais présidentiel pour aller tout droit devant les tribunaux. Et donc, j'imagine qu'il voudrait obtenir de l'administration M. Ramaphosa, ou de ceux qu'il soutient, la certitude qu'il ne sera pas poursuivi. Et donc, j'imagine que dans les négociations en coulisses qui ont lieu, M. Zuma essaye d'obtenir l'immunité par anticipation, non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'ensemble de sa famille. Mais la stratégie qu'il poursuit est très risquée, à la fois pour lui-même, pour l'ANC et pour l'Afrique du Sud en général. L'ANC risque d'en sortir plus divisé qu'auparavant. Et pour un pays qui a besoin de stabilité, qui a besoin d'être gouverné et qui a besoin de corriger la mauvaise direction qu'il a suivie au cours des 10 dernières années. Mais encore faut-il souligner que dans cette affaire, l'ANC n'est pas le seul acteur. C'est-à-dire que le fait de n'avoir pas confronté à bras-le-corps sa crise interne a fait en sorte que la gestion de cette affaire maintenant lui échappe. Ou en tout cas, ils ne sont pas les seuls protagonistes. Les partis d'opposition sont aux aguets, la société civile également, les tribunaux et évidemment les milieux d'affaires.
L'analyste politique Achille Mbembe joint à Johannesburg. Le Front Polisario est prêt à des négociations directes avec le Maroc, a indiqué hier à Alger un responsable du mouvement indépendantiste Sahraoui. Les détails avec Raïssa Girondin.
Mohamed Salem Ould Salek, ministre des Affaires étrangères de la République arabe Sahraoui démocratique, a affirmé hier à Alger que la RASD est prête à entrer en négociation directe avec le Royaume du Maroc pour faire la paix. Le Polisario et Rabat n'ont plus négocié directement depuis l'échec d'un cycle de 5 ans de pourparlers en 2012. Une délégation sahraoui a été reçue le 25 janvier à Berlin par Horst Köhler, nouvel envoyé spécial de l'ONU. Rabat a annoncé aussi qu'une délégation du royaume chérifien rencontrerait M. Köhler à une date non précisée. Horst Köhler a invité les deux parties et les pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie, à prendre part aux discussions. Le Maroc propose une large autonomie du Sahara occidental, mais refuse de discuter de la souveraineté marocaine. Le Front Polisario réaffirme le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui par un référendum et revendique l'indépendance de l'ancienne colonie espagnole.
À Washington, il est 6h07.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Jean-Roger Billon à ce micro, la suite de ce journal ici aux États-Unis, à 48 heures de l'expiration de la dernière loi de financement temporaire du gouvernement fédéral, l'incertitude persiste quant à un éventuel accord sur la principale pierre d'achoppement, l'immigration. Hier, le président Donald Trump a rejeté des éléments clés d'une proposition bipartisane au Sénat. Il a qualifié de perte totale de temps tout accord sur les Dreamers, qui n'inclut pas une forte sécurité à la frontière et le mur dont on a désespérément besoin. Les Dreamers sont des centaines de milliers de jeunes clandestins venus très jeunes aux États-Unis en compagnie de leurs parents. Les forces gouvernementales ont repris au Yémen, aux rebelles, une ville carrefour dans la province stratégique du Hodeida après des combats qui ont fait des dizaines de morts. D'après des sources médicales dans la ville de Hodeida, au moins 30 rebelles houthis ont été tués et plusieurs autres blessés. Une source gouvernementale à Poussapa a indiqué que les combats pour la reprise de Hayes s'étaient tout déroulés lundi et 8 soldats avaient été tués. Trois figures du mouvement pro-démocratie de Hong Kong, dont Joshua Wong, ont remporté mardi devant la plus haute juridiction de l'ex-colonie britannique un appel contre leur condamnation à des peines de prison pour leur rôle dans la révolte des parapluies. Joshua Wong, Nathan Law et Alex Chow avaient été condamnés en août à des peines allant de 6 à 8 mois d'incarcération. Leur détention avait fait suite à un appel du ministère public qui demandait des peines plus lourdes que celles décidées en première instance. Et puis la Chine a annoncé aujourd'hui avoir conduit avec succès un test d'interception de missiles à l'aide de son système de défense au sol, à l'heure où les tensions dans la péninsule coréenne restent très vive. Ce test d'interception d'un missile balistique à portée intermédiaire a été effectué lundi et a atteint l'objectif fixé, selon un très bref communiqué du ministère chinois de la Défense. Jean-Roger Billon à ce micro. Point final à ce journal. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.